Bonjour tout le monde, bienvenue à Angle mort d'aujourd'hui. Ce matin, très tôt, je me suis réveillé, puis... Alors, faut que vous sachiez que moi, je m'endors, puis je me réveille, mais surtout, je m'endors sur YouTube. Je mets des conférences. C'est des trucs plates, là, c'est des trucs sérieux, j'avoue, mais ça m'endort, tu sais. Ça fait que je les écoute, mais à un moment donné, je tombe, tu sais, paf. Je fais ça tous les soirs. Dernière affaire, l'iPad à côté... Moi, j'ai acheté YouTube Premium, ce qui fait en sorte que tu peux fermer ton appareil, fermer l'écran, puis ça continue de rouler. C'est un des features très intéressants, en plus de ne pas avoir de pub. Ça coûte plus cher, hein? YouTube, là, c'est probablement l'abonnement le plus cher qui existe. Netflix, là, c'est 10-12$, puis YouTube, c'est 16$. C'est qui se la joue, mais tu vois, je l'ai pris, puis jamais je vais retourner en arrière. Je vais couper un repas par jour, parce que je prends de ça à mort, puis moi, c'est fini d'attendre que la pub passe, puis tout ça, là, zéro. Et donc, ce matin aussi, je fais la même affaire, dans le sens que, avant de me lever, je regarde des fois, tu sais, des trucs, puis tout à coup, je me lève. Le matin, c'est moins systématique, mais quand même. Et là, je vois une entrevue de Michel Onfray avec Stéphane Simon. Ces deux gars, c'est un philosophe puis un producteur télé, ils sont associés, ils ont lancé une revue qui s'appelle Front populaire. Puis, ils recevaient avec Guillaume Bigot, qui est un commentateur politique que je connais parce que je suis à TV en France pas mal. Ils recevaient Mathieu Bock-Côté. En Zoom, là, tu sais. Puis là, Bock-Côté nous faisait son illustration très articulée, très intéressante, ce en quoi le multiculturalisme canadien nuisait à l'émancipation nationale. Il retournait à l'époque de Trudeau, quand vraiment cette idée-là était pour noyer le frais francophone, faire en sorte que les francophones étaient à faire tout ça. Et plus tard, ce matin, je me lève, puis là, je fais comme d'habitude, je me lève même un peu plus tôt, c'est parce que j'ai des pubs à faire, puis tout, ça fait que je me lève comme à 6h30. Et puis, je fais mes lectures de tous mes journaux pour trouver mes sujets pour la radio, puis pour Angle mort, puis tout. Puis là, je tombe sur un article d'Émilie Nicolas du Devoir. Puis, je fais un lien entre les deux, c'est-à-dire que mon sujet aujourd'hui, c'est les TOC. Quand tu écoutes Mathieu Bock-Côté, Toute sa démonstration est intéressante, mais est toujours une coche trop foncée. C'est-à-dire que pour lui, ça définit littéralement tout ce qui se passe dans le Canada. Alors, ironiquement, lui, il trouve que du racisme systémique, ça n'existe pas. Mais à l'entendre parler, il dit ouvertement sans le dire que le Canada est un système, et ce système-là met les Canadiens français, les Québécois, dans une espèce de case... qui refusent leur émancipation, etc. Donc, il déclare, sans le dire, que ça existe l'idée d'un système, mais il rejette le système qui serait, par exemple, raciste, sous prétexte que ça ne fait pas son affaire. Mais dans vraie vie, lui et Émilie Nicolas sont deux qui ont des TOC, parce qu'elle, elle nous revient encore avec le patriarcat, puis vive la diversité, je veux dire, c'est l'égérie de ça. Puis, tu vois qu'ils ramènent tout le temps ça à ça, tout le temps, ils sont fascinés. C'est comme des gamers, mais ils ne s'en rendent pas compte. Tu sais, un gamer, ça a hâte d'aller devant son écran puis de jouer à des games. Mais eux autres, ils ont hâte de pourfendre le patriarcat puis de dire à quel point le Canada est épouvantable. Puis, dans leur démonstration, parce que moi, je les suis puis je les lis autant que possible assidûment, c'est toujours très articulé. C'est juste que c'est tout le temps la coche après la réalité. C'est-à-dire qu'à les entendre parler de un, on est tous obnubilés par ces questions-là. C'est comme si moi, je suis envahi de questions raciales, je suis envahi de racistes, c'est un envahissement partout, il faut que j'ouvre les yeux là-dessus parce que sinon, c'est épouvantable. Puis je suis envahi par le Canada anglais, il brime ma liberté d'être, et puis... Ça fait qu'il y a un côté extrêmement foncé dans leur affaire, c'est très, là, on va peser sur le crayon. Puis bizarrement, ils se rendent pas compte, mais ils sont exactement dans la même mouvance, c'est-à-dire qu'ils voient, ils ont mis la loupe sur ce qu'eux autres considèrent être un système. Alors, ça amène la question, ça existe-tu, ça, le systémique? Ça existe-tu, ça, un environnement où il y a un système qui t'empêche de pouvoir aller ailleurs? C'est fait de même. Bien sûr que ça existe. En entreprise, on appelle ça la culture d'entreprise. Dans une famille, on appelle ça la dynamique familiale. C'est-à-dire que c'est bien connu, moi, je suis le dernier d'une famille de quatre. Ma mère était à la maison, mon père partait 4 jours par semaine comme représentant. Juste avec ce que je viens de vous dire, il y a quelque chose qui a littéralement défini qui j'allais devenir. Et ça a été flagrant à l'enterrement de mon père parce que les quatre ont fait un mot sur paix, puis aucun avait le même témoignage. Ah, évidemment, c'était très positif. Mais je veux dire, moi, j'ai parlé, puis j'ai fait rire tout le monde. Il pleurait, puis il riait en même temps, parce que je comptais des anecdotes avec mon père. Parce que moi, le souvenir que j'ai de mon père, c'est qu'on riait. Autour de la table, on riait. Moi, puis mon père, je le faisais rire. J'imitais Elvis Gratton, je faisais juste dire, « Moi, je t'écœurais. » Je disais ça, là, puis il explosait de rire. Fait que moi, c'est ça que j'ai connu. Mais ma sœur André, pas pantoute, c'était autre chose, puis Pierre d'autre. Tu sais, tu comprends? Ça s'appelle la dynamique familiale. C'est un système. C'est-à-dire que à moins que tes parents, quand vous êtes jeunes, décident tout à coup qu'ils vont faire quelque chose de différent, ils évoluent avec leurs croyances, ils ont une dynamique entre eux. Toi, tu vois ça, il y a un système. Ça s'appelle la dynamique familiale. Après ça, la culture d'entreprise. Tu t'en vas dans une entreprise. Moi, je travaille j'ai travaillé dans plein de domaines. Puis quand tu es à la tête d'une entreprise, il y a une culture que tu infuses. Puis quand tu es un employé puis qu'il y a des boss, il crée une culture d'entreprise. Elle se propage, je dirais, ou plutôt elle se poursuit, même quand les gens changent puis que les chaises demeurent. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est, admettons, vous êtes directeur de votre département, par exemple, et puis vous partez. Bon, bien là, les gens qui sont au-dessus de vous, qui sont responsables de trouver un remplaçant, ils vont trouver un remplaçant qui fit avec leur idée de qu'est-ce qui va sur cette chaise-là. Bien, ça, c'est une illustration de ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Bon, mais si tu tombes à l'échelle nationale, l'échelle d'une ville, d'un quartier, d'une commission scolaire, tout ça existe. Il y a un système qui est imposé par un professeur dans sa classe. Puis le directeur de l'école en impose un autre. Alors, à travers tout ça, les gens ont une liberté plus petite ou plus grande. En Corée du Nord, il n'y en a pas. Chez nous, elle est très, très grande. Ça fait que l'individu se démène là-dedans. Il y en a qui sont plus influençables. Il y en a. C'est un tissu dynamique qui n'en finit plus. Mais à la base, le système existe. Donc, l'analyse de Mathieu Bock-Côté sur qu'est-ce que le Canada a fait et fait encore, puis pourquoi ils sont beaucoup plus multiculturalistes et que nous autres, avec la loi 21, on passe pour des racistes puis des nazis. Effectivement, ça a rapport avec la culture canadienne-anglaise versus ici, etc. Tout ça se discute, tout ça s'analyse. Il n'y a personne qui a une vérité que tu peux trancher. Lui, c'est ce qu'il prétend, mais c'est faux. Sauf que quand tu as un TOC, c'est qu'à un moment donné, tu passes tout dans la même grille d'analyse tout le temps. Comme Émilie Nicolas, qui, elle, de son côté, voit tout à travers un espèce de système qui fait en sorte que les minorités sont tout le temps avec une côte à remonter, etc. Ce qui est fort probablement vrai, c'est la différence entre le discours que ces gens-là amènent de façon très tranchée en disant « voici ce qu'il y en est », puis la réalité, c'est pas une différence d'avoir trouvé quelque chose qui a du sens, mais c'est le degré. C'est là où ce qu'on peut argumenter. C'est-à-dire que jusqu'à quel point il y a réellement un patriarcat qui n'en finit plus, là, que c'est la cause de tous les maux? Bien, évidemment, quand tu te recules un peu et tu regardes ça, si tu es un gars, tu vas penser que c'est plus ou moins vrai parce que, évidemment, toi, tu ne subis rien de ça. Si tu es une fille, probablement que tu trouves qu'il y a un bout de vrai. La vérité est où? Je ne sais pas, moi. Je fais juste vous dire que un système, ça existe. Ça existe dans toutes les organisations, à toutes les échelles, de toutes les dimensions. Puis que si tu veux toquer en disant « Ah, il y a un système là-bas qui est de même, puis telle affaire », tu réduis beaucoup de choses. Tu réduis l'impact. Tu réduis, entre autres, la responsabilité personnelle. Quand tu vois toute la gang des offensés qui disent « Là, ça n'a pas de sens, puis il faut pépé le furet, qui là, c'est comme non, on l'élimine, etc. » Bon, je veux bien croire, faites ce que vous voulez. Mais il reste que il y a toute la responsabilité personnelle qui vient là-dedans. Souvent, être de droite, c'est beaucoup être attaché à ce qu'on appelle la méritocratie, c'est-à-dire que je travaille pour, je l'ai, je l'obtiens, je peux. T'sais, c'est le fameux « American Dream ». C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on prétend que c'est faux dans bien des cas, à cause du fameux système, justement. Mais on prétend que la culture américaine, c'est que tu es capable d'être un red pauvre, finir millionnaire. Bon, effectivement, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est possible pour tout le monde de la même façon? Non, mais c'est la même affaire un peu partout. C'est la même affaire un peu partout. C'est pour ça qu'on met ce qu'on appelle un filet social, qu'on se dit, bien, quelqu'un qui perd sa job, il a le droit au chômage. Après ça, un entrepreneur ne peut pas tout à coup monter son entreprise puis décider que ses contrats de travail, c'est comme il veut. Il y a la loi sur la loi du travail. Sur les je sais pas c'est quoi encore précisément, là, j'oublie, là, la loi, c'est pas la loi du travail, mais c'est la... En tout cas, bref, les conditions de travail. Comprenez-vous, c'est éminemment complexe. Puis quand t'as un TOC, bien là, c'est tout le temps « Ouais, c'est les féministes! Ah oui, c'est le Canada! C'était la femme! » Mais là, il faut se calmer. Parce que c'est une partie de l'explication. Puis quand t'es vraiment stické là-dessus, bien, tu vois la Terre entière tout le temps à travers ça. Alors, évidemment, il y a des forces beaucoup plus fortes que d'autres, puis certaines qui sont invisibles. Moi, ce que je pense que les Émilie Nicolas de ce monde font, c'est qu'ils mettent visibles des choses qui existent puis qui ne dérangeaient pas la majorité, donc la majorité ne le voit pas ou s'en soucie pas. Ça fait que ça a quand même une valeur. Moi, je m'excuse, vous ne me verrez jamais dans les pattes des gens qui sont pro-diversité, anti-racistes ou autres. C'est une militance qui est tout à fait respectable. À matin, tout ce que je vous dis, c'est que prenez bien soin de regarder à quel point. Puis là, ben, je vais finir avec, évidemment, avec mon dada à moi, mon toc à moi, c'est-à-dire de ramener ça toujours à la faute à monsieur, madame, tout le monde. Bien, on en a tous. On a tous des tocs. Moi, je veux dire, les miens doivent être plus flagrants que je pense. Ceux qui me suivent doivent dire, toi, ton toc, c'est clair. C'est justement, c'est peut-être mon hallucinement d'essayer tout le temps d'être à quelque part en train de trouver la zone où ce que les deux points se rejoignent ou whatever. C'est mon toc à moi. Dieu merci, j'espère qu'il est positif. Puis dans les cas qui nous concernent, que je vous parle aujourd'hui, eux autres, c'est très positif aussi, c'est-à-dire qu'ils font avancer une cause qu'ils considèrent qui est meilleure que d'autres. Moi, je respecte ça. Mais on a tous des fucking tocs. Tout le monde a son truc qu'il revient tout le temps en disant « Ah oui, parce que... » Puis on est tous amers de quelque chose. Il y a toute une opportunité qu'on trouve qu'on aurait dû avoir, qu'on n'a pas eu. Il y a tout un défi qu'on n'a pas surmonté, puis c'est pas de notre faute. Puis des fois, on a entièrement raison. Des fois, on a entièrement raison, il y a quelque chose qui nous est arrivé ou pas arrivé, puis ça n'aurait pas dû être de même, puis c'est vrai. Mais je veux dire, bienvenue dans la vie de tous les jours. Ça fait que si vous voulez tout le temps expliquer ce qui ne fait pas votre affaire en pointant du doigt une affaire, bien, je suis désolé de vous apprendre que... Et puis, je vais vous laisser là-dessus, c'est une phrase. Alors, quel grand philosophe, c'est Dennis Quaid, qui est un acteur. Puis, je fais des blagues, mais tout ça pour dire que c'est dans un film extraordinaire, très bon, qui s'appelle, je pense que ça s'appelle The Game. Alors, j'oublie le nom, mais c'est un film de baseball. Il y en a beaucoup des films de baseball. Je les aime beaucoup, beaucoup. Kevin Costner en a fait 122. Mais, sans joke, c'est avec Dennis Quaid. Puis, me semble que ça s'appelle... Alors, c'est une vraie histoire. C'est l'histoire d'un gars qui était prof de chimie. On voit toute son histoire, qui est jouée par Dennis Quaid. Et puis, qui finalement... pour le fun, s'en va parce qu'il coach l'équipe de balle parce que lui, c'était un lanceur qui a passé proche de faire les grosses ligues. Finalement, ça a foiré. Puis on explique dans le film pourquoi ça a foiré, etc. Puis là, un jour, son équipe de balle, les jeunes, ils disent « Hey, prof, il dit au coach, si on gagne le championnat, parce que c'est une équipe poche en partant, est-ce que tu irais faire des essais, voir pour les ligues majeures? » C'est-à-dire qu'évidemment, les ligues mineures, là, en partant, puis... Puis là, il est rendu comme à 36-37 ans, le gars, là. Il n'a pas 22, là. Et l'équipe gagne, puis là, ben il remplit sa promesse, il part avec son pick-up, puis il s'en va, puis à un moment donné, il s'en va à un camp de recrutement où il donne son nom, puis ils disent « OK, vas-y ». Puis le gars, il tire à 96 000 à l'heure. Je me souviens du chiffre. 96 000 à l'heure, comme les meilleurs lanceurs dans les ligues majeures. Et là, finalement, ben Calvas, il va dans un club, puis là... Tu sais, il a le support de sa femme puis de sa fille, mais en même temps, c'est un peu... Tu sais, il est loin parce que le club école est dans une autre ville puis tout. Puis il réussit à se rendre. Puis c'est extrêmement fort comme film et tout. Puis à un moment donné, on voit pourquoi ça n'a pas marché. Puis son garçon lui demande... Puis c'est ma phrase de fin pour aujourd'hui. Son garçon lui demande, « Papa, pourquoi ça n'a pas marché, toi, le baseball? » Puis il répond, « It's never only one thing. » C'est jamais rien qu'une affaire. Si tout le monde pouvait comprendre ça, là, il n'y aurait pas de guerre. Salut!